tu vas.
Bonjour.
Bienvenue.
Ah, moi je suis. C'est la première fois que je rentre dans une maison du Marais.
Ah, bah écoute, voilà.
Voilà, donc.
Je vais me mettre un peu à la cuisine parce que c'est pas prêt encore. Je suis un petit peu en retard.
Ah bon? Ben c'est pas grave.
Est-ce que tu aimes le blanc? Pas trop.
Un petit peu.
Ah, c'est du sauterne.
Oui, ben.
Bon.
Il faut que je. Non, c'est très sucré.
Ah oui, c'est pas bon pour toi.
Et je fais du diabète comme tous les vieux.
Ah mince.
Mais je vais en prendre un petit peu parce
ouais,
que le sauterne.
Allez, c'est... histoire de prendre l'apéro. Comme ça?
Voilà, c'est très bien.
Allez.
Je me souviens plus des dates exactes, mais je vais avoir des trous de mémoire sur les noms aussi. Mais non, mon aventure, c'est ça que je tiens à raconter chaque fois que je peux. Elle commence en 1952. Et de cette époque-là, je ne vois, si ma mémoire est bonne, je ne vois plus que Pierre-Henri et moi. Quand je suis rentré au studio de la Maison des Lettres, de la Sorbonne, ça se trouvait rue Férou. C'était un lieu assez étonnant à l'époque, qui avait été habité par Colette. Et moi, j'étais rentré dans cet endroit à cause du Théâtre Antique de la Sorbonne, fondé en 1936, je crois. Et il s'était spécialisé dans la représentation en français des textes anciens du théâtre, en particulier du théâtre d'Eschyle. Les fondateurs étaient maçons. Paul Mass. Il y a eu beaucoup de noms assez célèbres qui n'ont pas été des fondateurs forcément. C'était un groupe étudiant, hein, et qui travaillait professionnellement. Il y a eu Jean-Louis Barrault, Maria Cazares, puis Jean Gilibert, qui est un des personnages que j'ai accompagné très très longtemps, qui avait une vision tout à fait particulière qui me convenait très bien. Il y a eu aussi Jacques Lacarrière, qui est aussi un personnage dont on parle peu, qui pour moi est un compagnon, était un compagnon. Barthes aussi a fait partie du Théâtre Antique de la Sorbonne. Il a été même dans les fondateurs. Quand moi j'ai connu Barthes, il était vers la fin déjà. Alors le Théâtre Antique de la Sorbonne, on y jouait là, donc les Perses d'Eschyle. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir la musique électronique. Alors que je n'ai aucune formation musicale, un peu autodidacte pour gratter une guitare tout à fait moche. Alors, le Théâtre Antique de la Sorbonne était un théâtre moderne. Il n'essayait pas de reconstituer la musique ancienne. Il y avait un musicologue qui a été célèbre, qui était aussi compositeur d'ailleurs, qui s'appelait Jacques Chaillet. C'est un personnage important, pas seulement en tant que musicologie, mais dans le... Par exemple, il avait fait des études sur les musiques anciennes et il avait une tendance à nier toutes les visions de... les fameuses partitions qu'on découvre dans les textes grecs ou latins. Et lui, il disait que c'était une vue de savant, ça. C'était... Et donc, la musique qui était créée par Jacques Chaillet, d'ailleurs, pour certaines pièces, pas pour toutes, était accompagnée par un instrument qui était les ondes Martenot. Et j'ai donc rencontré les ondes Martenot, et qui est un instrument qui m'avait un peu fasciné à l'époque. Surtout que là, on jouait... au quart de ton, pas toujours. Mais... J'ai donc rencontré Monsieur Martenot, Maurice Martineau, qui lui-même était un personnage très, très marrant, très, très spécial.
Mais surtout, si tu veux manger quelque chose, des radis ou des...
Ah, je veux bien un radis, j'adore les radis. Et tel quel.
Même pas de sel, rien.
Même pas de sel. Mais à cette époque-là, je suivais deux filières à la fois. Dans ces années 50, on était encore très près des mœurs anciennes. Et faire des études consistait à accumuler des connaissances au gré de sa fantaisie. Et il n'était pas question à l'époque de faire un métier. J'avais cependant, sous la pression de mon père, avait fait une petite école, l'école Breguet, qui était une école d'ingénieurs, et je m'étais un peu spécialisé dans la basse fréquence. L'école Breguet, oui, qui est devenue l'ESIE maintenant, c'est une... ben, c'est des études d'électronique. L'école Breguet, Breguet était un aviateur, et l'école formait la TSF, la radio, à l'époque, le truc de pointe, c'était le radar. Ça, j'ai pas poussé de connaissances là-dedans, mais il y avait quand même une phonie, et j'avais quand même instinctivement trouvé un intérêt dans ce qui était déjà de l'électroacoustique, un peu plus loin que le morse, quoi. Et dans les avions, la phonie commençait à gagner du terrain parce que ça allait de plus en plus loin. À l'époque, quand on prenait un avion pour aller à New York, pendant une bonne partie du voyage, plus personne ne savait où on était. On pouvait avoir mis contact radio un petit peu avec les ondes courtes. Donc voilà, j'avais donc une certaine connaissance, et avec Martineau, j'ai tout de suite regardé sous le capot, voir le moteur, et c'était formidable parce que Martineau, lui, était aussi ingénieur, et il avait des visions. À l'époque, on était très pragmatique, très empirique. Et donc, quand il avait conduit ses ondes Martineau, il avait utilisé des lampes qu'il faisait faire lui-même, etc. C'était tout à fait spécial. Mais en 1953-52, il était question déjà de... un petit peu d'utiliser non pas encore les transistors qui existaient mais qui n'étaient pas encore la panacée, mais les dernières découvertes dans les petites lampes, etc., étaient beaucoup plus stables, beaucoup plus sûres, dont les paramètres étaient beaucoup plus étroits. Il y avait quelque part le bon point, il fallait le chercher. Et donc, j'ai un peu aidé. Le principal ami de M. Martineau, c'était Messiaen. Et donc, quand tu connaissais l'un, tu finissais par être reçu chez l'autre. Donc, j'ai connu Messiaen et ses pantoufles. Et bizarrement, c'est pas un monsieur qui m'avait beaucoup impressionné, à cause de sa belle-sœur, je crois, qui était rondiste, et qui était rondiste au groupe de théâtre antique de la Sorbonne. Et c'est ainsi que ça s'est complété avec, dans le même endroit où le théâtre antique avait ses repères, ses lieux, ses lieux de répétition, etc., un jour, je découvre qu'il y avait, au premier étage, un studio de prise de son, de radiodiffusion, comme on disait à l'époque. Et c'est là, donc, que j'ai manigancé pour y rentrer. Et mes petites connaissances techniques m'ont servi de passeport. Et je me suis retrouvé donc dans une sorte de club qui n'avait pas du tout de fascination pour la technologie en soi, mais qui avait une fascination pour les possibilités qu'offrait la technologie d'un point de vue artistique.
J'ai l'air chercher la viande.
Oui.
Avant que ça grille.
Avant qu'elle soit un petit oiseau. Alors, le studio, alors, depuis un petit moment, je ne me rappelle plus très bien quand il avait été créé, parce que ça, c'est compliqué, c'est l'histoire de la radio, entre guillemets, artistique, et qui avait été fondée par... Il y a deux personnages, là, qui rentrent en jeu, c'est Jean Tardieu. Jean Tardieu qui a inventé la radiophonie. Il était un peu sur le tard, il s'occupait d'autre chose. Mais quand il était là, il était toujours directeur de... C'était pas encore... Il y a eu des chassés croisés entre Schaeffer et Tardieu. Et puis apparemment, ils n'étaient pas copains. Peu avancé que connaissant les deux, ils avaient des caractères... antipolaire. Non, je ne sais pas. Je vais prendre un petit peu de sel. Donc, le... Jean Tardieu est par ailleurs un écrivain, un peu humoriste. Mais il a découvert, était l'un de ceux qui a découvert, parce qu'il y en a eu pas mal à l'époque, qui ont découvert que écouter un haut-parleur ouvrait un territoire inouï, inconnu jusqu'à présent, sans précédent. C'est un peu les termes qui s'y subissent. Tant et si bien d'ailleurs qu'il n'y avait pas les mots pour le dire. Mais il y avait quand même quelque chose qui... Un autre corps défendant, enfin, à leur corps défendant, je me mets dans l'eau, il y avait confusion entre l'émetteur radio et ce qu'on émettait. Il y a eu, on a parlé de radiophonie, de d'art radiophonique, etc. Et le mot radio est... s'est substitué à... Finalement, il y a un truc qu'il faudrait y réfléchir un peu mieux qu'en trois mots, là. Il y a un décalage entre le fait que le médium entre l'émetteur et le récepteur, finalement, n'est pas très important par rapport au phénomène de... Je parle là, tu m'écoutes ici. Il y a des quantités de gens qui ont évoqué ces trucs-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont parlé en essayant de se démarquer du terme de radio, etc. Les gens avec qui, à travers le club... d'essai de la Maison des Lettres que j'ai rencontré, il y en a certains. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé avec Roland Barthes. Je dis beaucoup, Roland Barthes n'avait absolument aucune envie d'appuyer sur des manettes. Il était bien content d'avoir, voilà, c'était un peu son valet de manette. Mais il y avait quand même des gens qui étaient vraiment des gens qui avaient une pensée tout à fait originale. Parmi ceux-là, il y avait Abraham Smalls. C'était un des premiers qui s'occupait de sociologie. La sociologie naissait à l'époque. Hein. Monterland faisait beaucoup partie de ce club-là. C'est un peu comme... Il y avait pas mal de scientifiques de cette époque, surtout les ingénieurs, qui, quand ils avaient atteint un certain niveau, n'étaient plus techniques. C'est le cas de Pierre Schaeffer. Ils étaient ailleurs, ils étaient dans la philosophie, dans l'esthétique, dans la musique, dans l'art. Alors Schaeffer, quand j'étais petit, j'étais une fois allé manger chez lui. Je devais avoir... c'était à Paris, donc je devais avoir 10-11 ans. Parce que mon papa et Schaeffer avaient été dans la même école à Nancy. Mais que je ne sais plus pourquoi, ils s'étaient retrouvés un jour à Paris. Et Schaeffer avait proposé à mon père de m'amener au studio d'essai de la rue de l'université avec d'autres gamins pour avoir aucune idée de ce qu'on avait fait, aucun souvenir. Mais un jour, dans ce local que je me souviens un petit peu, on était quelques gamins, 7-8 à peu près, et on a répondu à des questions, on a dû être enregistré, pourquoi, je ne sais pas. Donc ça, ça a été mon premier contact avec Schaeffer. Mais Schaeffer et le studio de la Maison des Lettres, c'était pas la même chose. Le studio, à cette époque, c'était Schaeffer qui était aux manettes au studio d'essai, c'était encore le studio d'essai, c'était rue de l'université. L'autre côté de la Seine. Je me rappelle plus très bien le numéro. Mais enfin, ça, c'est très classique. Hein. Il faudrait... C'est ça qui m'intéresse. C'est de se servir des noms comme des repères, mais pas de faire l'histoire des rois. Surtout quand ils ont des personnalités comme Schaeffer. Parce que le problème de Schaeffer... Enfin, le problème, son problème... C'est qu'il avait raison. Il disait vrai. Mais on n'aimait pas la façon dont il le disait. Il était très, très chef. Et puis un petit peu ambitieux. Hein. C'était dans l'intimité que je l'ai, quand j'ai pu l'approcher, comme on dit, c'était un tout autre homme. Il était attentif, il était... Mais en tant que chef de quelque chose, c'était... Il était, voilà, décassant, il était... Mais c'était bien. Je me souviens de ses cours au CNSM. Oui, c'est en 69 que moi je suis rentré au GRM. Avant, j'ai eu des contacts par-ci, par-là. Et le CNSM a commencé là. Avant, il n'y avait pas de classe. C'était la classe de musique fondamentale, ça s'appelait. Pour moi, quelques autres qui n'étaient pas des musiciens et qui étaient mal vus, d'ailleurs, par... Ça avait beaucoup choqué un certain nombre de camarades que des gens comme moi aient la carte d'entrée. Carte d'étudiant au CNSM. alors que ça correspondait tout à fait à mon niveau et à mes... ne pas connaître un seul mot de solfège et suivre les cours de Schaeffer. Mais là, il faudra faire un petit détour très spécial parce que ça met en cause des gens qui sont au volant aujourd'hui. Voilà, c'est... Schaeffer et la maison des lettres, ils n'étaient pas ennemis, on l'a vu de temps en temps, mais Schaeffer avait un côté hégémonique. Et puis il venait de déposer le brevet de la musique concrète. Et ça pesait, ça choquait. Hein. Tout ça c'est né avec, et j'aime assez le dire, c'est né en 1923 avec l'invention du haut-parleur électrodynamique. Le haut-parleur électrodynamique, c'est celui que tu entends tous les jours. C'est celui qui marche encore aujourd'hui. Ils ont fait des progrès technologiques considérables, mais il n'a pas changé sa structure de base. C'est toujours une bobine qui s'agite dans un aimant et qui fait avancer, reculer un cône ou plus ou moins plat de carton ou de matière nouvelle. Ça, c'est venu avant... Il y avait des haut-parleurs qui n'étaient pas électrodynamiques, qui avaient donc des rendements déplorables et des performances très très faibles. Tandis que le haut-parleur électrodynamique avait un rendement infiniment meilleur, et tout d'un coup, il y avait besoin de beaucoup moins d'énergie pour faire du bruit. Et un bruit qui était mécaniquement plus contrôlable. Des sons qui étaient... Les tout premiers haut-parleurs électrodynamiques sont pas si mauvais que ça. Et ça a fait beaucoup changer la société. Nous ne parlons jamais, on ne sort pas du champ de la musique en général. Il faut bien se dire que entre 1925 et 1935, les 10 années qui se sont, là, ont vu naître la radiodiffusion, la TSF, et le poste de TSF. Le poste de TSF, c'est un lieu qui, philosophiquement, est resté en friche pour l'instant, mais qui, à l'époque, 1950, et bien justement, les Barthes, les Jouves, Abraham Molls, Monterland, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, lui. Barthes, il a dit des choses sur l'image, sur le cinéma, sur etc. Et à un moment donné, il a découvert que c'était encore plus prégnant comme nouveauté sur le son. Je crois qu'à l'époque, il n'était pas en très bonne santé. Je suis honteux parce que André Almuro, personnage avec un talent extraordinaire et qui lui avait animé le sujet de la maison des lettres dans une direction d'introspective. C'était presque de la psychanalyse qu'on faisait. Alors, parmi les philosophes, là encore le nom m'échappe, un philosophe 68ard, fort connu, français, je ne sais même pas s'il n'a pas fait partie des nouveaux philosophes, mais je ne crois pas. Ah, c'est quelque chose quand même, ça. Ça fait partie des grands noms de la philosophie française, hein. Deleuze. Alors, que faisait-il ? Il y avait des interviews. Qu'est-ce qui se passait dans le studio de la maison des lettres ? Il y avait beaucoup d'interviews. De, comme ça, de bâtons rompus, un peu comme on fait à l'instant. Et j'étais un des rares volontaires pour être de l'autre côté de la vitre. Il y avait déjà une séparation, un petit studio avec une vitre, un petit salon où on causait. Et donc j'écoutais forcément les dialogues. Et c'est une chose de les écouter depuis la cabine, plutôt que d'être dans la pièce. Même en simple auditeur, tu n'écoutes pas de la même façon. Alors, il y avait ça, c'était avec André Lemureau, c'était le défilé de... Voilà. Comme je n'étais pas toujours là, j'ai peut-être raté des personnalités. Mais les personnalités qu'invitait Lemureau étaient toujours soit des gens de lettres d'assez haut niveau, soit des gens comme ça, de la philosophie ou de la psychologie, la psychanalyse, etc. C'était les grandes époques. Et le deuxième niveau, c'était les gens avec des gens comme Jean-Louis Barrault en tête, mais surtout Madeleine Renaud, qui passait des heures, nous passions des heures, à dire des textes théâtraux et à comprendre comment le micro amenait des choses. Alors, le gros pontosane de cette époque-là, c'était que à la radio, pour faire une pièce radiophonique, qui est donc un enregistrement, elle n'avait pas à porter la voix. Elle n'avait pas à te faire entendre. Et par conséquent, ce qui était nouveau, c'était de pouvoir jouer avec des intonations. Et je me souviens de Madeleine Renaud qui découvrait des termes qui m'ont toujours plu, c'est-à-dire la mimique invisible. Ça voulait dire que non seulement il y avait dans le registre de la voix à trouver d'autres repères que sur la scène, mais qu'en plus, comme on ne voyait pas le personnage, il fallait que le dire suggère les mimiques, suggère le projette le corps, le costume, etc. Et c'était très drôle parce que tu entendais des... Bien entendu, je n'ai gardé aucun document, je me reverrai maintenant, je noterai, et je volerai tous les bobineaux. Mais non, c'était pas... Et c'était pas ce que disaient les gens, c'était les circonstances dans lesquelles ils les disaient qui étaient nouvelles et passionnantes, etc. Pierre-Jean Jouffe faisait des choses assez intéressantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a... Je t'ai dit que tout a commencé à cause du haut-parleur. Électrodynamique, ça c'est plus anecdotique, c'est-à-dire qu'il a permis d'avoir le poste de TSF. À l'époque, on en était quand même encore là à découvrir que le poste de TSF faisait qu'il y avait celui qui parlait dans le micro et celui qui écoutait. Et c'est pas du tout le même pouvoir. On l'a vu en 1936 avec les nazis, celui qui causait dans le micro subjuguait celui qui écoutait. Alors je ne suis pas capable de développer ça à Gibitum, hein, mais c'est des choses qu'on a complètement oubliées aujourd'hui. Ça fait partie des trucs qu'on lit mais qu'on ne vit plus. Et qu'il y avait le fait que lorsque tu es... Il y avait aussi cette communication, la communication née à peu près à cette époque, et qui consistait à avoir un poste de radio. Et moi, je l'ai vu, ça. Un poste de radio installé sur un meuble et la famille installée tout autour comme si c'était la télévision. Et ça, je l'ai encore vu dans des familles, même chez, plus ou moins chez moi, avec cette attitude que l'on regardait le poste de radio, la TSF, et que d'ores et déjà, il y avait chez l'auditeur une relation entre le son qui n'était pas matérialisée par quelque chose. Et ça, c'était une des démarches qui était très claire au studio de la Maison des Lettres, c'est que ce qu'on entend par un haut-parleur est d'un autre ordre que l'acoustique ordinaire. Alors Barthes s'est assez intéressé à ça, il a dû prendre des notes et il a dû de temps en temps le nommer, mais il n'a pas fait de bouquin là-dessus. Et puis il a arrêté assez brutalement, je ne sais pas pourquoi. Donc lui voyait ce côté, et alors on parlait de Deleuze, et Deleuze parlait aussi de cette ambiguïté entre l'original et le double, et la copie, et la multiplication des choses. Qu'est-ce que tu entends dans un haut-parleur? Qu'est-ce que c'est qu'un enregistrement? Qu'est-ce que tu entends quand tu écoutes un enregistrement? Et donc là, il y a quelque chose qui m'a... J'en fais rien, j'ai pas assez de neurones pour en faire des trucs terribles, mais quand même, ça m'a imbibé tout au long de mon existence, que je ne peux pas écouter un haut-parleur sans savoir que c'est une... Quelqu'un a dit que c'était une boîte de Pandore qu'on ne pouvait jamais ouvrir. Et que si ça se... qu'on ne sait pas ce qui en échapperait. Voilà, donc de considérer le haut-parleur comme un être immanent comme ça, c'est un jeu de l'esprit, mais intéressant. Celui que je n'ai pas cité, mais qui était un des piliers à l'époque du studio de la Maison des Lettres, c'était Bernard Heitzek. Voilà, et son rapport entre l'émission en direct et qui est tout de suite en écho reprise par, c'est en général son système, faisait qu'il avait comme ça, il a inventé finalement la poésie sonore. Il a été l'un des inventeurs de la poésie sonore. Pour moi, le plus intéressant. Il ne reste plus dans l'histoire que Pierre Schaeffer, et ça, c'est dommage. Les philosophes, au bout d'un moment, ont dû laisser tomber, et puis la science de la communication est rentrée là-dessus, et ça a foutu un bordel. Il y a eu une bien-pensance à partir de 69 qui a beaucoup... Puis le politique s'est mêlé de tout ça. L'idéologie a remplacé la pensée. En même temps, j'ai fait connaissance, toujours dans le même lieu et au même moment, d'un jeune Allemand qui s'appelle Wolfram Mehring. Wolfram, pas Wolfgang. Wolfram Mehring, et qui était un garçon qui fuyait l'Allemagne un petit peu pour... Parce qu'en 1950, on n'était pas loin de la défaite, etc. Donc, il était venu en France et lui était un tenant. Il a fondé une petite troupe de mimes. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que parmi... Ça, j'oublie souvent de le dire. Que parmi mes universités, il y a... De Croux, le mime De Croux. Étienne De Croux. Alors Étienne De Croux, c'est aussi un de ces personnages de l'entre-deux-guerres qui est un personnage extraordinaire qui était mime, mais qui a inventé l'expression corporelle. Autrement dit, un mime qui peut parler. Et de gros, on l'a vu dans le film d'Abel Gans, Trois écrans, etc., que j'ai vu une fois en reconstitution, c'était au Châtelet. Au Châtelet, ils avaient mis trois écrans, trois projecteurs, des chœurs, et des lumières, etc. Spectacle audiovisuel magnifique, surtout si tu penses que personne n'avait jamais vu ça. Oui, il y avait trois. Il y avait un écran principal et puis il y avait des films sur les côtés, etc. Et c'était grandiose, c'était opératoire. Alors c'est ça qui me baignait. Bon, ça s'était passé avant moi, mais il y avait donc. Et donc voilà, ce que j'essaye de cerner, de faire valoir, c'est ce qui ne nous animait pas, pas le talent des gens qui s'y collaient, parce qu'il y avait plein aussi d'autres gens qui n'ont laissé aucun nom dans l'histoire. Mais quand je disais qu'il n'y avait pas que ces grands noms, et il y avait aussi, ayant fait du mime lui aussi, Bernard Parmigiani. Ah oui, il était mime, pas avec moi. Lui, il était chez un autre mime. Alors, Mering faisait en fait du théâtre expressionniste. L'expressionnisme allemand était encore. Et on a commencé à monter des choses. Et je ne sais plus comment est venue l'idée qu'on allait profiter du magnétophone. Petite parenthèse, le studio de la Maison des Lettres n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la possibilité à l'époque d'avoir deux magnétophones, Perfecton, qui étaient des magnétophones qui venaient du cinéma, mais qui avaient comme destination de faire les sons seuls, et donc pas de synchro et de choses comme ça. Et donc c'était un des premiers magnétophones, et qu'il était facile de bricoler pour que on puisse repérer et donc faire du montage. Et c'est ce que nous faisions dans ce studio. Bien sûr, on s'occupait un peu de prise de son, de ta voix, mais pas tant que ça. C'était tout d'un coup les potentialités qui jusque-là étaient réservées au film, les potentialités du montage sonore. Et ça s'est perdu. Alors bon, je l'ai appliqué tout de suite au théâtre. Nous avons eu cette idée et ce désir, et j'ai commencé à couper les bandes et à faire un montage un petit peu à la façon des dessins animés. Il n'y aurait pas eu le montage son, le dessin animé n'aurait pas existé, tout au moins dans sa forme actuelle. Et donc nous avions mis avec Wolfram en scène ce type de travail. On avait fait ça sur la pièce Wojciech, et Wojciech, il y a un personnage qui était le roi et qui était donc un mime qui faisait un travail de marionnette, c'était presque une danse, voilà, mais qui ne parlait pas, qui parlait par le magnétophone. Et donc l'acteur se synchronisait, et en plus, à chaque geste qu'il faisait, ou une grande partie de ses gestes, ça faisait chou, paf. Et tchik tchak pof, tac tic 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 tic. Écouter seul, ben c'était pas si mal que ça. C'était pas inintéressant. Donc je me suis quand même assez vite passionné, c'était passionnant. Mais Parmigiani s'est mouillé aussi dans ce genre, dans ce truc-là. Alors qu'on ne le voit pas du tout. Je suppose qu'il ne reste plus rien. Et donc, à partir de là, mais c'est là où j'ai commencé à dire, oui, c'est bien gentil, mais quand on... En répétition, tout ça, on avait... Mais quand il y a eu une salle, il s'est posé le problème de la diffusion. Il n'y avait pas une salle qui avait la moindre sono, et puis on en avait... Il n'y avait que les music halls qui avaient des débuts de sonorisation, où on appliquait des choses qui avaient été découvertes bien avant les gens de... C'est les crooners. Les crooners utilisent, font de l'électroacoustique, parce que tu coupes le micro, tu n'entends plus rien. Mais les haut-parleurs des crooners étaient des monstres, comme il y avait au cinéma, qui lui aussi était parlant depuis pas longtemps. Il y avait les voix du théâtre de chez Altec Lansing. Ça fait partie aussi des choses. Le voix du théâtre depuis Altec Lansing arrivait à descendre en dessous de 100 Hz. Il y avait une qualité standard du son. Il y avait déjà des normes, au cinéma en particulier et à la radio notamment. C'était la règle des 400 000. Les 400 000, c'est la bande passante équilibrée qui correspond quelque part avec la courbe de Fletcher qu'on a dans les oreilles et qui faisait un peu la qualité sonore du matériel radiophonique en particulier ou des salles de cinéma, entre autres. C'est-à-dire que ça monte. Comme ça descendait pas très bas, ça montait pas très haut. Mais entre 400 Hz et 1000 Hz, 400, 1000 Hz. Voilà, si tu fais une bande comme ça, ton oreille restitue un équilibre. Et n'est pas... Ça a été là, pendant des années et des années, la norme, y compris des disques. Les 78 tours avaient cette... voilà, on faisait des filtres pour que... Ben non, parce qu'après, tu as des contraintes mécaniques ou électriques qui faisaient que dès que tu voulais des aigus, c'était très difficile. Et puis, déjà, en magnétophone, enregistrer les basses, c'est pas si facile qu'on croit. Les aigus sont plus faciles, mais il y a les parallèles, le souffle qui... Donc, on se battait avec ces valeurs-là. Et c'est Pierre-Jean Jouve qui a décidé, dans cette partie des années 50, qu'avec l'arrivée du micro-sillon et surtout de la modulation la radio en modulation de fréquence, il n'était plus question de se contraindre à garder ces règles techniques qui étaient inventées par des techniciens, pas par des artistes. Et c'était ça qui avait fondé, qui avait voulu... il avait voulu que ce ne soit pas les professionnels d'alors qui cherchent. Il avait dit c'est d'autres gens qui acquériront les compétences. Et c'était donc les gens qui faisaient le noyau dur de la rue Ferreux, où il n'y avait pas de techniciens. Les techniciens râlaient derrière comme des... Ils n'écoutaient pas, ils conditionnaient le son, mais ils ne l'écoutaient pas, y compris les preneurs de son. Et la haute fidélité était une notion... était inconnu ou qui correspondait à quelques publicités mensongères relatives à des appareils. Ils ont inventé une qualité que les techniciens ensuite ont dû assumer. Voilà, donc il y a eu une naissance. Il y avait avant du théâtre radiophonique, mais c'était des choses, Il y a eu quelques retransmissions de pièces de théâtre à la Comédie-Française, mais toujours dans les formes, un micro lointain, etc. C'était... Tandis que, à la rue Férou, au studio de la Maison des Lettres, on a inventé, ils ont, parce que moi je ne pense pas avoir fait grand-chose là-dessus, ils ont inventé une dramaturgie sonore qui est spécifique au médium radio, à l'électroacoustique, et qui ne tient plus du tout compte du théâtre. Il aurait fallu à ce moment-là trouver des mots nouveaux, comme on a trouvé le mot cinéma, qui n'est pas une déformation du mot théâtre. On n'a pas dit théâtre filmé. Autre petite remarque, il n'y avait quasiment pas de musiciens à cette époque-là, pas plus chez Schaeffer qu'ailleurs. Schaeffer faisait venir des musiciens. Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous en payons un peu le coût, dans la mesure où il n'y aura plus que le mot musique électroacoustique et qui couvre tous les genres. Le mot radiophonie est un peu plus populaire, tandis que musique électroacoustique, le moindre groupe à la mode utilise ça, etc. Et ça, c'est une chose qui est, à mon avis, c'est foutu, ça reviendra peut-être plus en arrière. C'est que ça a occulté tout le reste. Et ça, c'est Schaeffer qui en est le responsable. Parler de musique concrète, alors que ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec la musique. Autrement dit, à l'époque où on faisait de la musique concrète, et on savait qu'est-ce que c'était, nous, on s'y essayait aussi. Moi, j'ai fait un peu de musique concrète avec au théâtre, avec les... Mais on n'avait pas en aucune façon besoin d'un bagage musical pour affronter ce domaine nouveau. On allait le découvrir. Et c'était pas la peine d'aller découvrir l'Amérique avec une carte Michelin du Périgord. Ce qui ne veut pas dire que les musiciens n'ont pas leur place là-dedans. C'est pas vrai du tout. Mais il y a maintenant une hégémonie, voilà, donc la marmite était telle que ça bouillait dur à ces époques-là et bien d'autres endroits. Alors un endroit qui faisait partie du théâtre et qui était le théâtre de Jean Villard, le TNP. Jean Villard lui-même. S'est lancé dans des Vallée de Chaillot, dans une véritable intégration, alors de la musique pour ce qui le concerne, mais de la musique enregistrée, diffusée, mais il a aussi affronté la voix off, qui est donc une invention de cette époque. Et un truc qui étonnait considérablement les gens, etc. Au TNP, au Palais de Chaillot, au théâtre de Chaillot, dans l'état où il était à l'époque, il y avait une scène qui faisait 50 mètres de large. Je ne sais pas combien de profondeur, c'était un hall de gare. Aujourd'hui, elle a été complètement ratatinée. Et ils arrivaient à faire des spectacles là-dedans, dans le souvenir. Alors, j'étais un tout petit peu plus jeune, mais c'était dans le début des années 50. Hein, c'était. Et la société Philips avait installé un dispositif de sonorisation qui pourrait très bien encore se faire aujourd'hui. il y avait de part et d'autre de la Seine une espèce d'immense colonne qui montait du plancher jusqu'au plafond qui était à 7-8 mètres, je ne sais pas combien, et il y avait une espèce de spirale, ça ressemblait à une roue d'Archimède, tu vois, une vis d'Archimède, des haut-parleurs qui, deux par deux, visaient tous les points de la salle. Alors, il y avait. Et puis il y avait de chaque côté sur les parois des haut-parleurs et une régie assez rocambolesque. J'ai cherché des photos, je n'ai jamais retrouvé. Et même dans les archives du TNP, apparemment, ils n'ont pas. Couple déjà stéréophonique. Oui, c'est peut-être 55, ça. Mais je ne sais rien. Et chaque couple était il était quelle que soit la place que tu occupais, tu avais un couple qui était réglé pour etc. Ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Tu vois, tu imagines cette vis d'Archimède. On a essayé à Bourges d'en faire un petit peu, mais c'était complètement pour s'amuser. Hein. Et il y avait des espèces de colonnes, mais on arrivait à avoir des effets de hauteur, mais les haut-parleurs du côté étaient retardés. Un son qui partait de devant la scène était diffusé aussi sur les côtés avec un retard correspondant à sa distance. Un délai, voilà. C'est le terme. Et le délai était plus ou moins bien calculé. Et le tout était fait avec un seul magnétophone qui enregistrait sur une boucle de fil. C'était un métallique. Et il y avait plein de têtes tout autour. Et donc, ce retard, ce système de retard a perduré pendant un certain temps. Moi, j'en ai eu une marque américaine dont je ne me souviens plus du tout du nom, mais qui fabriquait des chambres d'écho avec, comme ça, une boucle qui tournait indéfiniment et qui avait plusieurs têtes de lecture que tu pouvais régler, etc. Oui, la boucle. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. Qui l'a inventé, ça? On ne saura jamais. Probablement un gars du cinéma. Parce que le montage son, c'est quand même le cinéma qui l'a inventé. Hein. Voilà, c'est eux qui ont trouvé que le magnétophone, c'était infiniment plus intéressant pour sonoriser les films que de faire du montage avec les films. Qui ne pouvaient pas lire comme ça, etc. Donc voilà toute une atmosphère qui était loin d'être archaïque et la qualité de tout ça n'était pas si mauvaise que ça. Elle était moins bonne qu'aujourd'hui, mais moi je vois les premiers enregistrements que j'ai encore, ils sont encore tout à fait convenables. Il y a du souffle, mais aujourd'hui on arrive à le juguler relativement bien et... Alors voilà donc un petit peu l'atmosphère d'invention, de découverte, des pionniers, tous ces gens-là. Il y a le service militaire en Algérie qui rentre là-dedans.
À quelle époque c'était?
En 57.
57. Ben, moi je naissais à cette époque-là. Voilà. Et toi t'es dans l'Algérie.
Moi, je suis parti en Algérie en 57.
Non, mais c'était la guerre.
Ah, en pleine. Puis, je suis parti directo. Hein. Je n'ai pas fait de classe en France, ni quoi que ce soit. Mes connaissances de magnétophonique m'ont quand même servi là-bas, car j'ai crapahuté, certes, mais avec un magnétophone. que j'ai manié un magnétophone dont j'avais gardé effectivement des documents, mais qui ont été volés cette fois-ci. J'avais un Philips, et alors je ne sais plus sa référence, c'était un Philips portable, et qui était, mais avec secteur, pas avec pile, et qui avait une espèce de gros bouton, mais qui était un grand public, hein, c'était pas... Le matériel professionnel à l'époque était intransportable, et pas très bon. Alors en Algérie, j'enregistrais de... Comment t'expliquer ça ? Voilà. Je partais faire de la pacification. Ça consistait à aller avec un véhicule qu'on appelait l'oiseau bleu et qui était un camion, finalement, peint en bleu ciel, pas du tout militarisé, et d'aller dans les camps de regroupement. Les camps de regroupement, en deux mots, le territoire. Moi, j'étais à Kolo, à Presqu'île de Kolo, et donc il y avait tout le territoire entre la Presqu'île de Kolo et Constantine, qui était réputé zone interdite. Autrement dit, il n'était pas censé y avoir âme qui vive. Tous les habitants des villages avaient été regroupés dans des camps sur le pourtour de cette zone. Et donc, moi, j'allais dans ces camps et je faisais des discours que je lisais, hein, mais inventais pas. Je sautais peut-être quelques mots, mais... Et en français. Notre patrie est en danger, la mer, l'égalité, l'éternité, etc. C'est une fois que j'avais lu mon texte, que tu as fait bref, eh bien, il y avait un traducteur, un interprète, qui redisait à l'interprète, je sais son nom, est-ce que je vais le dire ? Il s'appelait Talbi. Oui, donc cet interprète redisait en arabe, ou plutôt dans la langue locale. Ce n'est pas encore la Kabylie, mais c'est tout à côté. Et ça, je devais l'enregistrer. Donc, blablabla. Et à la fin, voilà. Il est advenu qu'à un moment donné, cet interprète a suggéré qu'il réponde à quelques questions posées. Et nous sommes tombés d'accord là-dessus. Donc, je rangeais mon magnétophone, ostensiblement, et lui reprenait un peu, toujours sur le même ton. Mais de l'autre côté, il avait beaucoup de succès, beaucoup plus que moi. Et pour tout dire, j'avais grande confiance en ce monsieur qui s'informait sur l'état des pistes. Il disait, il vaut mieux passer par là que par là. Ma feuille de route me disait de passer par là. Mais il disait, mon lieutenant, il faut passer par là parce que là, la route, elle est défoncée. C'est, on me l'a dit, etc. Et on n'a jamais... Apparemment, ça a bien marché. On n'a jamais été matraqué, ni jamais tombé dans des embuscades, etc. Voilà donc une application de l'électroacoustique qui n'a rien à voir avec notre bonne chère musique, mais qui quand même m'a forgé beaucoup de choses. Un savoir-faire, un savoir-comprendre, un savoir... Quelle distance il faut mettre entre le micro et le locuteur pour que l'impact soit ceci ou cela. S'il est trop près, ça fait confidence et ça passe pas. S'il est trop loin, il est plus dans le coup, etc. Donc là, il y a quelque chose à juger qui n'est pas de l'ordre de la mesure, qui est de l'ordre de l'ouïe, il fait partie de l'art, à mon avis. Voilà un peu l'époque. Je suis content de pouvoir un peu m'appesantir sur cette époque-là. Elle a quand même perduré. J'en viens à mon service militaire. À un moment donné, c'était fin 58, j'ai droit à un mois de permission, comme tout le monde. Et donc, j'ai quitté mon bled après deux ans, enfin plus d'un an de présence là-bas, et je suis rentré chez moi. Et c'est pendant cette permission qu'un copain m'a dit, si tu veux gagner 3 sous, j'ai un coup pour toi, tu vas chez Dupuis. Dupuis, c'était un fabricant de magnétophones, un ingénieur qui fabriquait des magnétophones, bonne qualité, et dans la marque complètement disparue, je suppose. Dupuis, il doit enregistrer, comment dirais-je, des sons pour, alors pour le pavillon Philips de l'exposition universelle de Bruxelles. Et donc je me suis retrouvé embauché pour tourner, m'a-t-on dit, des boutons sur des appareils. Et je me suis retrouvé devant une série de vobulateurs, d'oscillateurs, de générateurs, de laboratoires, voilà. Mais rien de très compliqué. Et puis, il y a un monsieur qui est venu et qui a dit, alors, faut montrer ce qu'on peut faire. Et c'était Varèse. C'était pour faire poème électronique pour l'exposition universelle. Donc, on a passé plusieurs jours à faire et puis à enregistrer ça par des kilomètres et des kilomètres. Il n'avait aucune idée de ce qu'il voulait, et il avait donc, comme tous les valets de chambre, il n'y a pas de grands hommes pour le valet de chambre. Voilà. Je suis très étonné, j'ai été très étonné par la suite d'entendre le poème électronique. Peut-être qu'il a eu d'autres sources de sons, parce que c'est pas très construit, mais c'est quand même construit. Les sons étaient très continus, on ne faisait pas d'objets, très très peu de trucs. Et Varèse ne savait pas couper la bande. Il avait un peu fait ça avec Schaeffer, mais pas tellement.
Alors, à partir de là, moi j'ai un trou, de 58 à 68.
Alors, 58-68, je fais du théâtre. Quasiment que du théâtre, comme activité. Mais pour manger, le théâtre c'était une passion. C'était pas si mal payé que ça, mais il aurait fallu que je m'en occupe pour en vivre. C'était pas ma destination. Donc pour vivre, j'ai fait de la vente de matériel haute fidélité, très haut de gamme, et après de matériel de sonorisation professionnel. Et j'ai donc, dans un magasin qui n'existe plus, qui était boulevard de Clichy. Ah non, 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 il faut que je dise une chose d'abord. À mon retour du service militaire, donc fin 59, je suis d'abord revenu sur Civière. Hein. Donc je me suis farci environ 29 mois de service, mais dont 6 mois en très mauvais état, à Mibias. Mais carabiné, j'étais à deux doigts de coma, etc. Voilà. Perte de mémoire, ça commençait déjà. Et donc, à mon retour, je suis rentré comme contrôleur dans une fabrique, enfin dans une entreprise qui est rue Barbette, qui est donc pas très loin d'ici. Et qui était une entreprise qui faisait du câblage de téléviseurs. C'était le tout début de la radiodiffusion, télévision française commençait à peu près à ces moments-là. Et il y avait un appel de poste de télévision. Je faisais donc des téléviseurs Arfon. Un téléviseur s'appelait Arfon, c'est amusant. Et mon rôle, au tout début, c'était de contrôler le travail des câbleuses. Voilà. Et toute la journée, je vérifiais les soudures, etc. J'étais pas un très bon contrôleur, un peu distrait, et je suis devenu chef contrôleur. C'est plus facile de contrôler les contrôleurs. De fil en aiguille, ma passion de la haute fidélité a fait que, avec le patron, on s'est mis à étudier un électrophone de bonne qualité, mais à low cost. Et donc, à ce moment-là, c'est la seule fois de ma vie où je me suis penché en tant que carrément ingénieur, là, à la réalisation d'un électrophone à deux lampes stéréo, attention. C'était les premiers vinyles. Il y avait encore, à l'époque, il y avait déjà des stéréos, c'était le tout début. Là, je dessinais le schéma, je le mettais au point, de façon plus empirique que scientifique. Et j'ai encore le plan, d'ailleurs. Avec des ECL85 et ECL86, qui étaient des doubles pentodes triodes et doubles triodes. Et ça faisait deux canaux, et ça faisait un électrophone, et à l'époque, assez de bonne qualité. Et ça s'est vendu comme des petits pains sur les marchés. Pendant, pas très longtemps, mais pendant un certain temps. Il y avait une marque qui s'appelait Reculard. Reculard. Et donc, on a vendu ça sur les marchés. À la même époque, donc tout de suite après mon service militaire, il y a aussi un truc qui est intéressant et important dans l'histoire de l'électroacoustique. C'est l'AFDERS. Association française pour le développement de l'enregistrement et de la reproduction sonore. C'était une association d'amateurs. Mieux ça, je pense pas qu'on ait déposé, mais qui avait quand même un président, un vice-président, un trésorier, et qui donc se passionnait pour deux choses. La haute fidélité, d'une manière générale, c'est-à-dire la reproduction sonore de grande qualité, et la prise de son, en particulier la chasse au son. Avec comme président Jean Thévenot. Jean Thévenot, encore un personnage un peu mythique, qui faisait une émission hebdomadaire sur les chasseurs de son, où on entendait des prises de son sur des appareils en général très archaïques, mais surgonflé, comme on fait là sur les bagnoles, boosté, qui permettait de, comment dirais-je, et ben c'était les premiers Nagra, et donc j'ai pu disposer pendant un certain temps du Nagra à manivelle. C'est-à-dire d'un Agra qui avait une électronique à pile, mais pas de moteur à pile. C'était un moteur de phonographe de haute qualité qu'il fallait remonter. Et tu avais environ 3 minutes d'autonomie mécanique avant de recommencer à monter. Tu ne pouvais pas remonter en enregistrant. Donc j'ai pu jouer avec ces appareils. Je n'en ai pas procédé un, mais... Et donc la chasse aux sauves était très 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 courant à l'époque. Il y avait un particulier qui s'appelait Jean-Pierre ou Jean-Louis, enfin qui s'appelait Rocher. Rocher, c'est un chasseur de son ornithologue. C'est le premier en France. Il faisait partie de l'AFDERS. Il n'a pas fait ses disques, il les a fait de son côté. Il n'y a pas de production AFDERS. À part les émissions de radio de Thévenot, mais Thévenot a laissé tomber l'AFDERS à un moment donné. Donc c'est moi qui avais repris la présidence des chasseurs de son de l'AFDERS. Mais non, il n'y avait pas de... Même au début des années 60, il n'était pas possible de faire une école. Il y avait personne qui n'était... Il n'y avait pas un seul retraité du son à l'époque. Moi-même, j'organisais, dans le cadre de l'AFDERS, des séances de prise de son de piano. Bon, alors je disais quelques banalités sur le piano, comment ça marche et quels sont... Voilà. Et puis après, ben, chacun avec son micro essayait et on faisait des écoutes critiques et on apprenait comme ça sur le tas. Mais dans tous les niveaux... Chez Schaeffer, c'était pareil. Pierre-Henri inventait petit à petit les trucs. Et en plus, on allait de l'avant. On thésaurisait pas. Notre propos, c'était de découvrir. C'était pas d'installer une colonie. Parce que les séances, en dehors des séances de prise de son et de chasse au son, les séances consistaient essentiellement à écouter du matériel qu'amenaient les fabricants ou les grands revendeurs. On avait une formation à l'écoute qui s'est faite comme ça, au fur et à mesure des années. Et à cette époque-là, l'AFDERS avait une certaine renommée auprès des constructeurs et des distributeurs. On avait un... Les hommes d'AFDERS avaient, surtout l'état-major, avaient un petit peu un travail d'expert. Mais je m'y suis formé une écoute que je trimballe encore et qui me sert beaucoup. Une écoute à la fois exigeante et puis désabusée, dans la mesure où tu finis par savoir tous les trucs... du temps dans les années 60, c'était la revue du son qui était comme ça un peu... Alors, dans ces années 60, il y avait bien sûr le GRM, et puis c'est tout. Et j'avais été sollicité une ou deux fois, j'avais jamais donné suite. Et en 68... Il s'est passé un truc, c'est que tous les, je ne sais plus combien, la périodicité était les 2 ans ou à peu près, le GRM organisait un stage. Mais il cooptait les gens qui devenaient stagiaires. Dans ces gens qui sont devenus stagiaires, pas très loin, un petit peu avant, moi, il y a Savouré, Béatrice Ferreira, voilà, et quelques autres, dont le nom m'échappe actuellement, mais c'est les deux dont je me souviens. Et donc ils étaient stagiaires, puis ensuite ils restaient plus ou moins, voilà. Mais en 68, les événements ayant été ce qu'ils ont été, le GRM a dû faire un stage, mais open. S'y inscrivait qui voulait. Il n'y avait pas de, il n'y a pas de tri, de choix. J'ai donc finalement, aidé, avec l'aide un petit peu poussée, Jacques, à cette époque-là, nous étions très copains, et Jacques le Jeune avait décidé de s'inscrire à ce stage, et de Rochef, on s'est inscrit tous les deux. Et je ne le regrette pas, parce que la suite, quand même, dépendue de mon passage là. Et ce stage a été quelque chose d'intéressant dans l'histoire de l'électroacoustique, parce que en ouvrant les portes à qui voulait s'inscrire, eh ben, il y a eu extrêmement une grande diversité de profils, dans la mesure où il y avait eu, je ne sais plus combien, plus de 200. La première séance, premier outil qu'ils ont fait, je ne sais plus, il y avait, en tout cas, ça frisait les 100, si c'était en dessous, c'était de très peu, beaucoup trop de gens pour la capacité d'acoustique du GRM était assez faible. Et donc, je me suis retrouvé là avec des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Au centre Bourdan, qui était un grand hôtel particulier, qui était pas très loin de la maison de la radio, dans un parc. Et c'était le centre Bourdan, c'était le centre de recherche de la radio-télévision française, l'ORTF à l'époque. Et donc, dans ces locaux-là, il y avait les studios, il y avait des salles pour ça ressemblait un peu à la maison des lettres, mais en plus grand. Et donc, l'électroacoustique était de la musique concrète, comme je disais, le bon n'était toujours pas là. C'était comme ça, un territoire vierge. Et donc, on a vu des gens qui étaient tout à fait de la musique contemporaine. Et la musique contemporaine voulait prendre le pouvoir. Voilà, c'était boycotter les professeurs réactionnaires. Et donc, j'ai pu voir à ce moment-là des gens qui sont encore sur le chantier ou qui ne le sont plus depuis très peu de temps. En particulier, donc, j'ai retrouvé dans ce stage, alors les gens du stage avec qui j'étais, il y avait donc Jacques Lejeune, dont je viens de nommer, mais un certain Vanden Bogard, un certain Christian Clausier, et aussi une Françoise Barrière. Elisabeth Sikora, Eugénie Kupfler. Alors donc nous formions un petit groupe, on avait été divisé par cellules, tu vois, pour pouvoir occuper de temps en temps une des salles de machines du VRM. Et il y avait aussi des gens de pas mal d'étrangers. Dieter Kaufmann, il y avait une que j'aimais beaucoup, et en particulier qui je trouvais un talent électroacoustique et général, Micheline Coulombe-Saint-Marcou, qui est une Canadienne. Ça, c'était les stagiaires avec qui j'ai assez vite... Mais il y a eu aussi les 2E2M... Méfano, il y avait les noms m'échappent.
Tu veux du thé, peut-être ?
Oui, je veux prendre du thé. De Coust, voilà.
Ah, De Coust, lui aussi qui est devenu responsable.
Oui, qui est devenu ministre.
Est-ce que tu prends du sucre avec ?
Non.
Très bien. Voilà.
Merci. Michel De Coust, et ouais, puis, j'ai pas mal d'autres qui ont disparu un peu. Mais, tout ça pour dire que c'était la première fois qu'on voyait au GRM des gens de musique qui venaient continuer la musique, qui venaient pas parce que jusque-là les personnalités musicales dans l'électroacoustique étaient rares. Il y en avait sûrement. Mais je pense, parce que Pierre-Henri est ici, mais il a abandonné, voilà, il n'a pas renié son savoir musical, mais il s'en est pas servi pour, il a beau appeler ses trucs symphonie et compagnie, il a viré sa cutie et il a fait les deux gardes. Celui qui a été le plus remarquable dans ce type-là, c'est Luc Ferrari, qui... dans les années 60, m'a complètement bouleversé alors que j'ai entendu tout à fait par hasard Hétérozygote. Hétérozygote m'a fait basculer d'un artisanat sonore que j'appliquais au théâtre à quelque chose de beaucoup plus créatif, etc. J'ai dit, pour moi, Hétérozygote, c'est la première fois que on a... Comment expliquer ? C'est la première... Si on appelle Hétérozygote musique, alors c'est la première musique... Comment je pourrais dire ? Une musique n'est pas électroacoustique. C'est les moyens de transmission qui le sont. La musique, elle est forcément acoustique. Je cherche un mot qui tournerait autour de descriptive, mais qui n'est pas descriptive, qui serait... Si j'appelle Hétérozygote musique, alors c'est la première fois qu'on a pu faire de la musique figurative. Et la musique figurative ne sonne pas comme de la musique. Et Luc, que j'ai connu, mais pas très très bien, tu vois, j'ai pas... quand il faisait presque rien, etc., il n'était pas un musicien. Il était quelque chose d'autre, quelque chose qui contenait le musical, mais qui allait au-delà du musical. Et cette idée de la musique figurative, instrumentale, ça n'existe pas. Où elle est elle-même, la figuration de son... Donc là, il y a une nuance qui est un peu... Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait plus que les musiciens qui s'intéressent à ce domaine-là, qu'apparemment les autres, quelques-uns sauvent encore un peu de la radio, mais c'est pas très intéressant ce qu'ils font. C'est très vite engagé politiquement et bien pensant, etc. Alors, c'est dans, je ne sais pas si c'est pas le premier responsable du GRM, c'était qui ? C'était peut-être André Almuro. Mais en tout cas, à un moment donné, Luc Ferrari a été patron, il avait... Avant France Rebelle, oui. France Rebelle a toujours été chassé par la porte, rentré par la fenêtre. Bon, il a bien fait d'ailleurs. Voilà, donc ça remet un peu... Et c'est vrai qu'il n'y a plus grand monde qui peut te raconter ça. Hein. Parce que même Pierre-Henri, il va raconter Pierre-Henri. Il n'a jamais fait d'autre... Il n'a jamais été dans une communauté. C'est les studios Absom et compagnie. Ce sont ses studios, c'est sa aventure. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes. en 68, Pierre Schaeffer a été nommé professeur au CNSM. Et il a donc enseigné la musique fondamentale sur le thème du traité des objets musicaux. C'est a ouvert une classe parmi les autres. Les assistants étaient François Bell et Guy Rebel, qui ont donc été historiquement les premiers professeurs d'électroacoustique, mais avec l'impossibilité d'apprendre quoi que ce soit. Il n'y avait pas de cours, c'était... Guy Rebel, ingénieur qu'il était, qu'il est, nous faisait de la théorie de l'information, mais c'était beaucoup de la théorie de l'information d'ailleurs. Quant à Pierre Schaeffer, les cours de Pierre Schaeffer, c'était des engueulades. Voilà. Ou bien il partait dans des trucs qu'il fallait être très malin pour comprendre, ou bien il passait son temps à fustiger la musique contemporaine. En gros, c'était ça. En gros, c'était ça. C'était... Pierre Schaeffer est quand même un personnage énorme. Détesté et méprisé, mais réellement énorme dans sa personnalité. C'est quand même un personnage qui est né et a vécu toute son enfance dans un conservatoire de musique, enfin, des parents, professeurs de musique au conservatoire de Nancy. L'un était violoniste, l'autre, je ne me rappelle plus. Et la mère, je ne sais plus, pianiste, enfin bref, il a baigné là-dedans. Et arrivé à un moment donné, il a rejeté tout ça, pour des raisons qu'il explique par-ci, par-là, Et il s'est donc lancé dans la technique, dans la technologie, à fond laquelle il est devenu polytechnicien. Et sorti dans les bons. Et puis, de là, il s'est passionné pour la communication. Il a été parmi les inventeurs de la communication. Et puis, il est devenu poète. Ça, on ne le sait pas. J'ai mis sur SoundCloud quelques exemples de mes cochonneries à faire. Mais il y en a une que j'aime bien, qui est le hommage à Schaeffer, et où je reprends que des thèmes de Schaeffer. Et à un moment donné, on entend une chansonnette. Et c'est Pierre Schaeffer qui l'a écrite. Paroles et musique. Et ça avait été chanté par, je ne sais plus qui, un chanteur connu de cabaret, tu vois. Et il a fréquenté beaucoup les surréalistes. Et il a fini philosophe. Mais, parallèlement, il était assez ambitieux et il en a fait des choses. La radiodiffusion coloniale, outre-mer, j'avais dit coloniale, c'est outre. Et puis, la recherche, il a quand même breveté la musique. Ça, c'est son côté technique, il est allé breveter. Et je voudrais bien lire le brevet de pouvoir le trouver. Il a breveté la musique concrète. Artaud. Dans les années 60, qui était vite pour toi, mais extrêmement riche pour moi, il y a eu aussi le théâtre, bien sûr. Et parmi le théâtre, toujours, le théâtre de la Mandragore avec Wolfram Mehring, c'est le nom de la compagnie qui existe encore. Mais au Théâtre antique de la Sorbonne, il y avait Jean Gilibert. Jean Gilibert, à l'époque, était toubib. Il était un médecin. Puis après, il a bifurqué et puis il s'est passionné pour le théâtre. Et il a été à la fois médecin, psychanalyste et théâtre. Et je ne sais plus comment, un beau jour, je me suis retrouvé dans cette compagnie et j'ai amené mon magnétophone naturellement. Et donc, c'est là où j'ai fabriqué les premiers trucs qui étaient finalement des pièces de concert. C'est pas des pièces de concert, mais c'est un peu poussé par Jean Gilibert, qui est décédé aujourd'hui, que j'ai commencé à organiser les sons autrement que en illustration ou en éclairage, surlignage de l'action théâtrale. Alors j'ai fait ça dans les années 60, c'est le tout début de Château-Vallon, je ne me rappelle plus. Ça doit être 68, oui. C'est plutôt la psychanalyse de cuisine hein, qui m'a, tout d'un coup, j'ai trouvé des relations très intimes entre ce que je pouvais faire avec mes sons et les résonances des personnages, les perses, mais montées cette fois-ci par les perses d'Échille, montées par Jean Gilibert, et où pour la première fois, moi, j'avais imaginé une intervention électroacoustique en direct. C'est-à-dire que j'avais que deux éléments sur bande et je travaillais exclusivement au cabassophone. Cabassophone. Ça vient d'une caisse, une boîte en contreplaqué qui a contenu ou avait été livré à un haut-parleur de la marque Cabas et que j'avais m'en servi comme caisse de résonance et j'avais installé des tringles de rideaux comme une espèce de piano bataqué, tu vois, et que j'attaque et bourré de capteurs de toutes sortes. Quel capteur atterrissait à une console et ça, c'était parti sur groupe de haut-parleurs, et à l'époque c'était les amplis qui étaient les plus difficiles à obtenir parce que j'étais relativement influencé par Bachet, mais relativement parce que Bachet lui n'a jamais eu de capteur. Et donc voilà, j'avais cette espèce de peigne et puis je grattais, je frottais, je tapais, etc. Et j'avais quand même j'avais quand même une chambre d'écho à ressort. Et mes capteurs, à l'époque, étaient soit des micros de guitare trafiqués, complètement décortiqués, soit déjà j'avais pas mal de vibrateurs pour... je sais pas si ça se fait encore, ça doit se faire encore. T'avais des espèces de vibreurs qu'on met sur l'os ici et qui permettait d'entendre pour de malentendants. Mais inversement, ces trucs-là étaient très sensibles en tant que micro de contact. Et donc, je me suis régalé, j'ai eu un certain succès avec ça. C'était des idées que j'avais, que je réalisais, et ça marchait. J'avais quand même deux, trois instruments complémentaires, dont une corde tendue. Mais c'était quand même des trucs assez proches de l'instrument de musique. À part qu'il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas de hauteur, et puis que les touchés étaient... Mais je me souviens, dans l'amphithéâtre de Château-Vallon, comme un amphithéâtre grec, quoi. Et le soir venu, ces sons-là étaient très adaptés à la circonstance. Ça, c'est la première dimanche, c'est ma première pièce électroacoustique faite chez moi, mais elle ne fait pas partie du catalogue GRM. Nuisance, c'est la seule pièce que j'ai faite au GRM, qu'ils ont gardée, qu'ils ont même éditée en disque. Mais c'était donc cette pièce qui... Le stage dont je viens de parler longuement se terminait petit à petit. Ils ont mis des barrières que n'ont pas sauté de plus en plus de gens, et finalement on n'est pas resté très nombreux la dernière année. Hein. Et la dernière année, il y a eu une sorte de concours de sortie de la classe de Madrid, et bizarrement, j'ai été dans les quatre qui se sont retrouvés dans les quatre, dont Dieter Kaufmann, Micheline Colombe-Saint-Marcou, et puis je ne me souviens plus du troisième. Disant, c'est une commande de la radio, et on a eu pour la première fois droit aux 52 ou aux 54, c'est-à-dire les deux gros studios du GRM où on n'avait pas le droit de mettre les pieds. Ça commence à être mes premiers spectacles sous l'égide de l'ASIC. Moi, je ne fonde pas l'ASIC. C'est Nicole Lachartre. Plus tard, j'en deviens le président, mais parce que c'était bien comme ça. Il fallait un président et voilà. Alors, c'est une forme électroacoustique d'un spectacle plus ou moins théâtral. Plus ou moins radiophonique. J'ai du mal à dire, il faudrait que j'y réfléchisse, à dire que ce que moi je vois le plus dans le phénomène électroacoustique, dans l'écriture électroacoustique, c'est la théâtralité, et non pas la musicalité. Et que cette théâtralité, il faut encore la définir, c'est-à-dire que c'est une manière d'entendre qui est plus narrative que... Quand tu observes une sonate, ça ne raconte rien. Mais... Alors l'opéra est forcément un peu théâtral, mais c'est un caractère inhérent à l'écoute. Parce que dans l'abstraction des choses électroacoustiques, quand il n'y a pas de référence à la musique instrumentale, il y a quand même quelque chose qui fait que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas. Que tu te... et je trouve que quand tu écoutes, c'est parce qu'il se passe un drame, dans le sens le plus large du terme. Hein. Dramaturgie indicible, indiscernable, mais présente. Alors ça fait partie des trucs, mais c'est des choses, il faudrait que je rêve toujours de rencontrer quelqu'un qui serait d'accord avec moi et avec qui on décortiquerait un peu ce genre de choses. Je n'ai fait que copier Ferrari. Prendre le fameux hétérozygote, c'est pas ça qu'il m'a dit. Il y a quelque chose qui fait que tu écoutes des gens et que tu vois bien que ça n'est pas vrai, que c'est articulé d'une manière imbriquée, etc., des gens qui disent des mots, des moutons qui passent, etc. Et cependant, tu le reçois un peu comme théâtralité ou picturalisation. Mais dans Hétérozygote, il n'y a pas de poésie. Il y a même sous-jacent quelque chose de très trivial, et c'est poignant, c'est... Mais bon, voilà, il faudrait faire aussi l'analyse des personnes. On n'a pas fait une analyse, il n'y a pas d'analyse. Il y a quelques musicologues qui s'y lancent. J'ai été une fois invité dans les toutes premières manifestations à Bourges, et je connaissais bien Christian. 72, oui, je les connaissais avant, bien sûr, puisqu'on a invité avec Barrière et Christian nous étions co-stagiaires, mais on avait fondé à Château-Vallon le groupe d'expression directe de Château-Vallon. Et ça, c'est dans la lignée, dans la foulée de mes élucubrations cabassiennes. Les gens que j'avais imaginer de faire un groupe d'improvisation plus ou moins électroacoustique, en tout cas avec des sons non acoustiques. Et ce groupe était fait avec Savouré, Jacques le Jeune, Christian Clausier et moi-même. Et nous avons fait des choses à pas mal d'endroits, en particulier, on a fait des choses à Bourges, bien sûr, à La Rochelle, à Château-Vallon, où on a commencé, et puis à, comment dirais-je, notre chef-d'œuvre, ça a été le grand amphi de la fac de droit de la rue d'Assas. Le nid des droites. Alors, celui que je dois, dans mes tentatives de spectacle. Alors, il y en a eu pas mal. Il faudrait que je fasse la liste, je ne me rappelle plus. Il y en a eu pas mal. La première, c'était quoi? La première, ça a été à Château-Vallon. Et je ne sais plus sous quel titre, j'avais fait une espèce de grande fresque avec cinéma, projection. Et bandes, et puis plusieurs personnages, voilà, en costume, etc. Et ça se terminait sur une samba à la fin. Ah, moi je suis très kitsch et très baroque. Et je trouve que c'est pas. C'est, pourquoi pas? Je veux dire, la componction de certaines attitudes. Voilà. Cette idée de chercher à faire une forme d'un spectacle électroacoustique, ça me travaille depuis presque tout de suite, tu vois. Et ça a évolué, ça s'est arrêté, ça me prendrait bien encore, mais là j'ai plus les moyens de faire à mesure. Voilà, si que j'ai pas fait de musique de concert, j'ai fait que des interventions, dont certaines. Seul en soi, c'était à la maison de la Suède, centre suédois. Et c'était donc des interventions et avec des inserts de textes. Voilà. Ou l'entendre, c'est-à-dire que tu pouvais, dans mon esprit, c'est mieux de fermer les yeux que de regarder. Quoique je mets un petit peu en scène, etc. Le sommet de cette série-là, toujours dans le cadre de la SIC, ça a été un autre seul et le dernier seul en soi qui s'est passé à Pompidou. Centre Pompidou, dans la grande salle du Centre Pompidou. Mais ça, c'était vers 84, à peu près. Ben là, c'est... Alors, ça tient à quelque chose qui remonte au milieu des années 70. Au milieu des années 70, je reste en relation avec un ancien stagiaire, Fernand Vandenbogarde, qui lui-même, avec Michel Lecoust, animait les tout premiers studios non institutionnels à Pantin. Lecoust étant quelque chose comme directeur de Pantin ou quelque chose comme ça. Et donc c'est là où, sous l'initiative de ces deux garçons, j'ai commencé à me lancer dans l'enseignement. Sachant qu'à cette époque-là, le mot enseignement était contesté parce que on n'avait pas de corpus. Ouais. Enseigner quoi? Ouais. Et donc, mes tout premières classes, tout premier poste avec Patrick L'Enfant, je les ai fait au Plessis Robinson, où il y avait les premières, dans les toutes premières classes électroacoustiques qui ont dû exister, dans le cadre d'écoles de musique ou de conservatoire. Et puis à Bourges, pendant longtemps, il était question que de stages, à la façon des GRM, Et puis les choses étant ce qu'elles sont, il y avait des classes qui s'étaient formées un peu partout. Marseille, entre autres, avec Frémio. Après le plaisir au Vincent, je me suis retrouvé dans le sud, à Évry, ville nouvelle, avec François Bouche. Et là, j'ai fait mon premier couac. Alors, c'est intéressant, parce que François Bouche voulait pas d'adultes, et que nous enseignions notre art aux enfants. Et ça, je veux pas. Ça, je dis niette. On n'apprend pas la composition aux enfants. Non seulement c'est difficile, mais c'est les truquer, c'est les escroquer, les pauvres. Parce qu'ils ont de l'invention, mais ils ont surtout du jeu. Alors j'aime bien les enfants, et je suis tout à fait capable de les animer. Christian Clausier a eu le génie de faire le mieux beau gosse. Et ça, oui. Roger Coquigny, mais on fait des choses avec les enfants où il n'est plus question, où il n'est pas question de solfège ou de choses comme ça. J'ai eu d'autres endroits où on finissait par jouer d'un instrument. Et c'est très bien, mais il y a mieux à faire aussi. Je trouve que surtout quand on est qu'on fait partie d'innovateurs, de défricheurs, les pionniers, comme vous dites, il est nécessaire de transmettre. Alors, transmettre à la manière, pas à la manière des conservatoires, de transmettre à la manière. C'est une époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais des ateliers de peinture, d'art plastique, où il y avait un maître. Le maître, c'est quelqu'un qui sait, un peu, c'est en gros un peu le trésor vivant des Japonais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une vie entière d'expérience, de savoir, de compréhension plus ou moins personnelle, et qui, à un moment donné, le transmet, sinon, ça s'est perdu. Et donc, c'était un peu ma vision, c'était d'articuler les classes dans lesquelles j'étais, et Amiens a été celle où j'ai le mieux développé mes idées, c'était de faire... de faire plutôt une école sur l'individu qu'une école qui transmet des connaissances. Entre savoir et connaissance, je fais un petit distinguo amusant. Moi, je sais comment on fait un mixage. Mais je ne pourrais pas t'expliquer. Donc... Parce qu'avec l'enfant, tu ne fais que de nourrir l'enfant. Tu ne conserves pas et tu n'améliores pas ou tu ne prévois pas. Moi, je suis incapable d'être instituteur, mais maître des écoles, comme on dit aujourd'hui. Mais je ne condamne pas ça. Voilà. Mais je dis que l'électroacoustique, et c'était le cas à Évry, ne se convenait pas à ça. Puis il y avait un deuxième élément. Il y avait aussi Lévinas. Et il y avait Madame Lévinas qui apprenait à jouer du Saint-Clavier à Évry. Et puis, moi j'ai aussi touché le Saint-Clavier. Et malheureusement, j'ai forcément, si tu l'allumes et que tu commences à changer les paramètres, tu tues les paramètres. Il n'y avait pas de mémoire de paramètres. Et cette personne ne savait pas reconstituer les paramètres Donc ça finit en, ça finit que j'ai quitté. Parce que François Bouch, qui par ailleurs est un garçon charmant, n'avait pas de culture électroacoustique. Il n'était pas électroacousticien pour deux sous. Il était musique contemporaine, ça oui. Et que ça, il y a eu confusion à ce moment-là entre ce qu'on pouvait faire en montage, etc., ne lui paraissait pas l'idéal. Il fallait que ce soit dans la lignée de l'évolution de la musique. Voilà. C'était pas les esthétiques que ça pouvait indiquer, engendrer, ne lui paraissaient pas probantes. Lui, il fallait que ça rentre et puis que tout de suite. Il y a des œuvres et tout de suite il y a des trucs. C'était pas du tout ma version. Ça a bien marché à Amiens pendant très longtemps, jusqu'à la fin des années 90, où après, là, j'ai eu des pressions. En l'an 2000, on m'a demandé de me conformer au projet de la mairie. Et là, j'étais pas du tout le. Non, c'est. Je te raconte à toi, mais en passant, j'ai raconté 100 fois, mais en résumé l'histoire de la classe d'Amiens, ça s'est passé en fin 82, l'initiative de l'État de promouvoir dans les conservatoires, en général, obligatoire dans les conservatoires de région, et le conservatoire national, des classes d'électroacoustique. Mais c'était que il y a eu d'entrée des conflits terribles entre les directeurs et les syndicats. Enfin, l'ensemble des professeurs de qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas de la musique. Et donc, une partie des classes qui ont été créées à cette époque-là, il y en a eu plusieurs, ont été créés sous l'égide de professeurs dûment musiciens. À Amiens, ça ne s'est pas passé comme ça, à cause, grâce à l'Antoine. Alors l'Antoine était le premier et nouveau directeur du CNR, puisque Amiens venait d'être hissé au rang de CNR. Et lui avait de la musique contemporaine, une vision personnelle, mais plus intéressante, et faisait le distinguo entre l'électroacoustique et le reste du monde. Ils ont donc fait un premier appel, un premier concours, s'est présenté, où il y avait comme membre du jury, entre autres parmi Gianni, De Gust, je ne sais plus, enfin il y avait toute une brochette de gens. Et ça s'est passé un jour où il y a eu pas mal de candidats, je crois qu'il y avait 6 ou 7 candidats. Jamais pu réussir à avoir les détails. Moi, j'étais pas du tout hors du tout. Et après délibération du jury, ils ont retenu personne. Donc, qui avait-il dans les candidats? Je sais pas non plus. Voilà. Donc, ils ont retenu personne. À partir de là, Antoine avait, ça c'est les institutions de l'époque, l'Antoine avait un blanc-seing pour organiser un deuxième concours, mais avec un jury qu'il nommait lui-même, à sa convenance, où il y avait toujours un peu la mairie qui était représentée, mais. Et puis, il a contacté un certain nombre de camarades, dont moi. Et le plan schéma que je lui ai envoyé, c'est lui qui lui a plu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au grand dam de certains. Voilà. Mais quand je suis arrivé à Amiens, heureusement que j'étais parqué tout en haut de la ville, du côté de la... tout à fait en haut de la rue qui... la route, avec le Crédit Agricole. Il y a un grand centre de Crédit Agricole. Bon, enfin, on était à la limite, mais on était très bien, il y avait une villa pour nous tout seuls. Mais j'étais hué quand je l'ai testé. Alors, il m'a été raconté que à un moment donné, il y a eu, dans une réunion de professeurs, où je n'étais pas, quelqu'un qui a déploré qu'on puisse donner une classe supérieure à quelqu'un qui ne sait pas lire ses notes. Ce qui la fout mal dans un conservatoire, je me mets à leur place. Et l'Antoine a eu cette présence d'esprit, il a dit « Oui, c'est vrai, il ne sait peut-être pas ses notes, mais parmi tous les professeurs ici présents, il n'y en a pas un seul qui soit dans le dictionnaire Larousse de la musique, alors que M. Boisula, il y est, effectivement, j'ai un petit encart grâce à Chian d'ailleurs. » Et à partir de là, bon... Delta P, c'est aussi une initiative de... c'était la région cette fois-ci, Poitou-Charentes, où il était, il y avait un truc à faire. Et le local, c'est Éric Mullard, qui est un musicien de très grand talent, mais qui n'a jamais voulu se frotter aux copains, qui est toujours resté, non pas amateur, parce qu'il est tout sauf amateur, mais comme ça, non institutionnel, et qui avait donc eu à faire un projet, et ce projet, il m'avait contacté pour moi que je fasse le projet technique, le projet de dessiner le studio. Et puis, ça s'est bien passé, on est restés tous les deux à fonder cette entité. Alors l'entité... c'était, compte tenu des moyens que nous avions, qui étaient pas mal au point de vue de la consommation, c'est-à-dire on avait assez pour avoir quelqu'un, un technicien à demeure, un quasi à demeure, du matériel assez bien doté. Par contre, il n'y avait pas moyen d'avoir le moindre centime pour passer des commandes, etc. Donc, de toute façon, c'était pas notre... on n'envisageait pas de faire concurrence à Albi ou des choses comme ça. Et donc, on a décidé que ce serait un lieu un peu fermé, mais qui servirait à faire de la recherche, qui permettrait, entre autres, à des volontaires de venir se frotter au matériel ou au logiciel ou aux manières de faire à fond perdu, c'est-à-dire pas avec au bout du compte, mais ils ont un stage, ils n'auront pas le prix d'une commande, mais ils seront nourris, logés pendant une quinzaine de jours. Et donc, ça a bien marché. Et nous, de notre côté, on a développé un certain nombre de directions, en particulier sur les applications de l'art électroacoustique aux monuments historiques. Et on a fait des choses pour la corderie de Rochefort, et puis pour la tour de la lanterne. Voilà, des sons et lumière, en fait. Et on n'a eu aucune notoriété nationale. Mais la dernière qui était, qui n'a pas été complètement terminé, c'était un travail sur la diffusion. L'octophonie, c'est pas l'octophonie, c'est il faut marquer octophonie d'Onis. L'Onis étant le nom de la région de là-bas. Parce que le mot octophonie, c'est le mot qu'on entend, c'est la tête piste. Voilà. Non, nous, c'était un dispositif qui était, d'ailleurs, il y a des photos qui traînent de temps en temps. C'était un octuor, finalement. Rapport frontal, 8 voix séparées et 8 discours séparés. Le mixage à la symbiose se faisant acoustiquement dans l'air. Et donc, mais ça marche bien, ça, c'est très intéressant. Ça n'a pas encore abouti, ça n'avait pas abouti à des chefs-d'œuvre, mais à des trucs remarquables qui permettent de constater que l'écoute frontale, mais ça on l'avait déjà découvert plusieurs fois dans le concept qui était celui vers lequel on allait avant d'être fusillé, c'était celui du studitorium. Studitorium, c'est un petit peu une idée de Roland Cahen, aussi autre personnage pas inclus dans la bande. Mais ça, c'est dans la conversation, on ne saura jamais qui veut, pas d'ailleurs à broster quoi que ce soit. C'était cette idée que le lieu d'écoute et le lieu de fabrication doivent être le même, ou au moins homothétiquement, point de vue forcément acoustique. C'est-à-dire que tu dois travailler pour un effet acoustique que tu entends, ce que tu ne fais pas chez toi ou dans n'importe quel autre studio. C'est-à-dire que si tu fais un truc en poumf canal, c'est la moindre des choses que tu le construises, que tu le composes en même temps que tu l'entends. Il faut l'outil. Sinon, on aboutit à des aberrations que je déplore, mais qui font que je ne peux rien faire contre ça. Les aberrations sont ce qu'on entend aujourd'hui, et sur le plan des diffusions, il y a eu des régressions énormes, énormes, énormes. Bien sûr, Okmebaphone des premières années, qui a été le truc, à mon avis, le plus abouti. Il y a eu à Stockholm un truc, je ne sais plus comment il l'appelait, qui n'était pas loin de Okmebaphone, mais qui utilisait beaucoup moins de haut-parleurs. C'est-à-dire que si tu veux faire entendre quelque chose de compliqué, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu ne l'as pas entendu déjà, il y a quelque chose qui est du domaine du compositeur de symphonie qui effectivement n'a pas entendu sa symphonie avant de l'entendre. Et s'il la corrige, qu'il la découvre. Mais qu'il ne le peut l'entendre que si un orchestre veut bien ou un interprète veut bien le faire. Donc là, on est là maintenant. On est revenu à cette majoritairement, les outils de diffusion, je pense à Motus, sont des outils qui n'ont pas qui sont hasardeux dans leur réalité, parce que si tu le poses là ou si tu le poses là, grosso modo, tu sais que si tu as un haut-parleur à droite, tu entendras à droite, ça c'est sûr. Mais ça s'arrête là. Et se superpose à ça cette idée qui maintenant est trop musicalisée, à mon avis, qui est celle d'interprétation. Et là, je crois qu'on ne s'interroge pas sur qu'est-ce que c'est que cette interprétation, on interprète quoi et comment. Alors déjà, dans le musical, c'est vrai, on fait des merveilles avec 3 paramètres, hein, la hauteur, la durée et l'intensité. Mais la hauteur et la durée, tu ne peux pas la jouer sur un acousmonium. Tu peux jouer que sur l'intensité. Et l'intensité, là ou là ou là. Ben, l'espace, tu ne peux rien faire dans l'espace. L'espace, tu ne le crées pas par des sons des haut-parleurs. Il est sur la bande. tu ne crées pas un espace grand, une cathédrale, si tu n'as pas fabriqué un son cathédrale. Donc, l'interprète vit un cinéma intérieur qui n'est absolument pas communicable, à mon avis. Alors que c'est dommage, parce que l'œuvre contient elle-même sa représentation. Mais c'est surtout l'idée de Bourges, ça. L'idée du gmophone, c'est Clausier qui l'a eue, mais il ne l'aurait pas eue s'il y avait été un autre qui était là à ma place. Donc, cette idée-là, et je n'ose plus en parler, parce que actuellement, je ne vais pas attaquer Jonathan. Et c'est pas si mal que ça, ce qu'il fait. Et puis, ce serait bien qu'il y ait des endroits neutres, des bistrots, où des gens en parlent comme en parlaient entre eux, les surréalistes. Mais c'est vrai que, techniquement, le gmophone, dès son départ, après, il a évolué un peu en se complexifiant, mais c'était le gmophone était parti de l'idée suivante. Que se passe-t-il si on dispose des haut-parleurs recevant chacun une partie du signal qui leur correspond, qu'en est-il de la réception ? Sur le papier, tu vas t'apercevoir que si tu mets les basses dans le fond, le gros grave dans le fond, puis un peu moins grave, un peu médium, un peu plus médium, aigu, très aigu sur le devant, tu obtiens une espèce. On avait disposé ça d'abord un peu au hasard, puis on avait fini par faire un V qui partait du grave dans le fond et qui allait. Quand on envoyait une musique là-dessus, que se passait-il ? La distance entre les haut-parleurs, c'était frontal ça, la distance entre les haut-parleurs était telle, et la puissance était suffisante, pour que, situé au centre de l'écoute, au centre, dans l'axe du V, tu perçoives l'image stéréo de chacune des bandes passantes. Autrement dit, tu as une stéréo qui se fait entre les extrêmes aigus, ça fait très fugitive, etc., très mobile, et puis une autre avec le haut médium, puis le médium, puis le haut basse, et puis les basses, elles sont unidirectionnelles. Mais tu as aussi des images qui se créent entre les diagonales. C'est-à-dire entre le médium 1 et puis le bas médium, tu as une image qui se crée. Autrement dit, quand tu arrives à maîtriser à peu près les phases de tout ça, en introduisant de courts délais par-ci, par-là, etc., l'auditeur qui est en face de cela entend une stéréo quasi infinie, tu vois. Et donc, il y a un espace, lieu fermé, tu as là encore une théâtralisation, c'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup un objet multiple, une scène. Pierre Schaeffer parlait de l'écran sonore comme étant, à l'époque c'était carrément la mono, donc c'était le haut-parleur est un écran et non pas un diffuseur. La diffusion se fait par derrière. Et donc là, tu avais un objet en 3D sonore. Ça marchait, par exemple, ça marchait très très bien dans le palais Jacques-Cœur à Bourges. Tout d'un coup, il fermait, quand le truc était bien réglé, tu avais devant toi un spectacle, tu voyais passer les armées napoléoniennes, les chutes du Niagara, etc. Tu avais quelque chose de non tangible, non réel, qui ne va pas s'en poser des problèmes d'audition, mais yeux fermés, tu avais devant toi une scène de spectacle, pas de théâtre, mais de spectacle. Si tu commences à ne pas filtrer, c'est-à-dire à ne pas spécialiser le signal, tu tombes dans un autre système. C'est-à-dire que là, tu as des haut-parleurs large bande. Quelquefois, j'ai vu à Cray qu'ils les réglaient tout petit peu. Ils enlevaient les basses des aigus et vice versa. Mais tu as une seule émission, parce que tout ça est synchrone. Tu as une seule émission qui fait que tu entends une masse à droite, une masse à gauche. Et ça, c'est ce que j'entends à chaque concert. C'est complètement un appauvrissement parce que l'auditeur traque quelque chose. Il entend bien que tout d'un coup, c'est plus... c'est tcha-tcha-tcha. Mais il ne s'intéresse pas à ce que c'est que le tchi-tchi-tchi et le tcha-tcha-tcha. Il n'y a aucune stéréo. Ensuite, il y a le fait que l'idée de baigner l'auditeur dans un bouillon sonore est une idée circonstancielle. C'est-à-dire que dans quelles circonstances écoutes-tu baigné dans le son ? En réalité, c'est quasi impossible. Alors, tu rentres dans une cathédrale, là, tu es baigné dans une ambiance. Tu as des réflexions, etc. Mais est-ce que tu écoutes ça, en dehors de cinglés comme nous ? Par contre, dans une salle de spectacle, il y a un bain de son à la fin de chaque morceau. Mais tu n'entends que ça et ça, tu entends. Tu vois, tu... Donc, cette idée du bain sonore est peut-être un peu utopique. Mais il y a peut-être quelqu'un qui va y arriver. De temps en temps, il y a des choses qui marchent un peu. Les raisons historiques sont tout simplement que moi, je n'avais pas de statut. Je n'étais pas membre officiel puisque c'était une structure municipale. On n'a pas eu on n'a pas eu la possibilité. Et puis mon camarade Mullard était peut-être pas très chaud pour faire comme le GMEB, devenir autonome. Et puis même si on n'aurait pas eu les soutiens suffisants, il y a eu le fait que à la mairie ça a changé de couleur et ça a changé bien des choses. Et puis mais c'est surtout la structure dans laquelle nous étions qui était une sorte de maison des jeunes, maison centre culturel, etc. Et qui s'appelait le Carré Amelot, et qui lui était petit à petit complètement désorganisé, ramené à la portion congrue, etc. Et quand mon camarade Mullard est arrivé à l'âge de la retraite, un petit peu avant, il a été décidé qu'on fermait. On a réfléchi à savoir qu'est-ce qu'allait devenir la structure, et d'un commun accord, on a dit elle se démantèle. Parce que ce genre de structure, c'est qu'une apparence d'organisation. L'âme, c'est comme Bourges, tu enlèves les dirigeants. Et fondateur, hein. Qu'est-ce qui reste ? Il reste du matériel qui est parfaitement inutilisable. La CIM existe encore. Hein. Aucune de ces initiatives ne m'est strictement personnelle. C'est toujours dans la... Sauf Bourges et l'Artam. Oui. Non, l'Artam, c'est un truc... C'est un atelier de recherche. C'est un des trucs... Un des points forts de Bourges. C'était où... Techniciens et compositeurs se mettaient les mains dans la même soudure. Oui, ça c'est aussi quelque chose qui s'est perdu. C'est les gens comme, y compris Luc Ferrari et Parmé en particulier, etc., étaient capables de prendre des fers à souder. Ils avaient vis-à-vis des machines une autonomie qui s'est perdue. Aujourd'hui, tu dépends du gars qui a dessiné ton logiciel et puis voilà. Alors, l'ERPEM, c'était le premier nom de la Fédération française des compositeurs de musique électroacoustique. Mais en France, autant ça marche assez bien à l'étranger. Mais en France, il n'y a pas eu moyen de... J'avais personne. J'étais le président fondateur de cette... Et puis personne ne voulait venir. Parce qu'il y avait... Parce qu'il y a le GRM, parce que... L'IRCAM en particulier. D'autant plus dangereux qu'on n'entend plus parler. Mais la SAM, c'est un truc beaucoup plus lié à la... à l'édition. Bon, enfin, pour résumer, pour ne pas recevoir des louanges imméritées, ce sont effectivement, je me suis beaucoup engagé dans une action mondiale qui a très très bien marché, c'est-à-dire de ne pas faire de sanctuaire esthétique comme on fait, comme c'est redevenu en France. Bourges a eu cette merveilleuse chose, c'est que à Bourges, ben, il suffit d'aller sur les sites de Closier pour avoir la liste des centaines de gens qui sont venus travailler à Bourges et qui, par le fait même, et puis même le concours de Bourges était un truc là où moi j'ai beaucoup œuvré au tout début, c'est un concours qui était, il n'y avait même pas besoin d'être pipé puisqu'il n'y avait pas d'esthétique prééminente. C'est-à-dire à partir de la fin de Bourges et de La Rochelle, je me suis retrouvé seul sur le quai et j'avais eu envie à un moment donné de fermer les volets et puis de faire autre chose. Pour moi, je ne fais plus d'œuvre. Pour l'instant, je fais le contraire de ce que je dis qu'il faut faire. Je fais de la... l'art abstrait, fini le figuratif. Je m'affranchis du réel où je vais dans... Je suis d'un cran un peu plus près du musical ordinaire. Et donc je prétends faire, comme on faisait dans les années 50, des études, des brouillons. Alors, le son Mupo... C'est une invention de Patrick L'Enfant. On a fait pas mal de choses ensemble, et c'est Patrick qui a eu l'idée de Lusson Mupo. Lusson Mupo, c'est l'ouvroir. En tout cas, c'est la même définition que l'oulipo. Appliqué à l'électroacoustique, au départ, ça devait être que ça appuie. C'est devenu appliqué à la musique. Et pour des raisons tout à fait circonstancielles et sans intérêt, j'avais cessé d'être... de participer aux activités de Lusson Mupo. Mais je recommence le 29 de ce mois, 29 février 2016, à la Vieille Grille. Voyons, j'ai oublié l'essentiel, mais tant pis. Je suis quand même heureux de voir qu'il y a au moins quelques-uns qui en prennent connaissance.